Carnet d'IG, cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Saison 1, la mémoire qui déraille. Carnet d'IG, épisode 1. La mémoire des hommes apparaît comme vaste et infinie. Mais ce n'est pas le cas pour toutes et tous. Je le vois bien avec mes amis atteints de dépression. Certains peuvent perdre des souvenirs. Qu'est-ce qui peut bien avoir changé dans leur cerveau? Cela ne doit pas être facile d'oublier. Je me demande comment je pourrais les aider et s'il existe un moyen de retrouver ou booster leur mémoire. Après les échanges de la dernière fois, je me suis replongée dans mes vieux bouquins. Ils parlaient tantôt de mémoire déclarative, tantôt de mémoire sémantique ou épisodique, ou parfois de mémoire procédurale. Mais alors, ne devrions-nous pas parler des mémoires plutôt que de la mémoire? Pour en apprendre davantage, je suis allée à la rencontre d'Aude Marzeau, maîtresse de conférence de l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris.
Alors oui, il y a plusieurs manières en fait de se représenter la mémoire, de la classifier d'une certaine manière. Il y a tout ce qu'on va pouvoir dire, qu'on va appeler déclaratif, et tout ce qu'on va savoir faire. Et ça, c'est des savoirs qu'on aura appris, qu'on aura engrammés en termes de mémoire, et qu'on n'aura pas nécessairement besoin ou qu'on ne saura pas forcément expliquer par la parole, mais qui seront bien ancrés dans notre corps, comme par exemple savoir faire du vélo. On apprend une fois, pas deux. Des choses qui peuvent entrer et se garder à plus long terme. Après, quand on va du côté déclaratif, donc du côté de la mémoire qu'on est capable de relater avec des mots, il y a différentes sous-catégories qu'on peut essayer de repérer, et notamment ce qu'on va appeler épisodique par rapport à sémantique, et épisodique, typiquement, ça va être « je me rappelle qu'avec ma grand-mère, j'ai fait un gâteau hier matin ». On peut le dater, il y a un contexte très particulier qu'on peut relater. Une mémoire sémantique va être beaucoup plus globale, ça va être ce qu'on va apprendre depuis tout petit, en classe par exemple, et on va plus se poser la question de savoir si c'est associé à un contexte particulier, je sais pas, Marignan 1515, peu importe que ça nous ait été dit en cours d'histoire ou par notre grand-mère justement, la connaissance est acquise.
Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM.
Je sais pas trop comment expliquer ce qui se passe dans ma tête. C'est comme si j'avais plusieurs mémoires et que certaines déconnent. Ouais, voilà, c'est exactement ça en fait. Par exemple, je me rappelle toujours de la date d'anniversaire de mon père ou je suis toujours capable de jouer de tête ma musique préférée au piano. Mais à côté de ça, depuis quelques temps, je suis incapable de me rappeler ce que j'ai mangé au petit-déj ou des trucs tout bêtes comme le film que je suis allé voir le week-end dernier. Mon entourage n'a peut-être pas tort finalement. Tout ce qui touche à des événements récents, ça rentre et ça sort. J'ai beau faire des efforts, non, ça veut plus. Pourtant, j'y parvenais encore le mois dernier. J'ai l'impression que ça empire, je sais vraiment plus quoi faire.
C'est maintenant clair. Il existe bien plusieurs types de mémoire. Je me souviens vaguement avoir entendu parler de différents fonctionnements de la mémoire. Notre cerveau est séparé en deux hémisphères, quasiment symétriques, et que ces hémisphères sont chacun divisés en lobes. Est-ce que ces zones sont reliées à la mémoire?
Alors, de manière générale, on sait qu'il nous faut une zone qui existe des deux côtés de notre cerveau, qui s'appelle l'hippocampe, donc on a en deux exemplaires, qui est absolument nécessaire pour la création de nouveaux souvenirs. Quel que soit ce type de souvenir, il nous faut cette zone du cerveau pour engrammer des nouveaux souvenirs. Une fois que ces souvenirs, cette action d'apprentissage est faite, il va y avoir ce qu'on appelle une consolidation de ces souvenirs. Là, ils vont pouvoir éventuellement se ranger un petit peu dans différentes zones du cerveau en faisant appel à ce qui est de l'ordre de la vision, va être plus codé dans les aires de la vision, ce qui va être de l'ordre de l'olfactif, plus dans les aires qui correspondent à ces zones-là, etc. Et à chaque fois qu'on va faire appel à un souvenir, ben, ces zones, qui sont pas forcément aux mêmes endroits du cerveau, vont à nouveau s'activer, se synchroniser en quelque sorte, pouvoir communiquer entre elles de façon à faire réémerger le souvenir. Et c'est un peu cette connexion-là qui fait la plénitude du souvenir, puisqu'on peut avoir différentes modalités auxquelles on fait appel au moment où on se rappelle de quelque chose.
Des zones dispersées dans le cerveau qui se synchronisent et communiquent entre elles. Quelle prouesse ! Mais comment est-ce possible ? La réponse n'est pas si compliquée. Neurones, synapses ou encore neurotransmetteurs, la nature a doté l'être humain d'un système nerveux des plus performants.
Alors, ben, les neurones, ce sont les cellules, on va dire, de base qui constituent notre cerveau. On a un peu tendance à oublier qu'il y a aussi un autre type cellulaire qui s'appelle les glies et qui sont absolument indispensables. Ils fonctionnent main dans la main, si je peux me permettre. Les neurones, donc, ce sont des cellules qui ont un corps cellulaire, donc globalement plus ou moins ronde, alors avec des formes un peu différentes parfois, et qui ont des petits prolongements. Donc quand on se représente les choses, on peut voir un peu, en fonction de chaque neurone, un peu une forme un peu différente. Il y en a qui ont des formes un peu pyramidales. En tranche, ça fait un peu un triangle, mais en réalité, il faut voir ça en 3D, donc ça fait une petite pyramide. Et au bout de chacune des extrémités, il y a des prolongations qui permettent d'aller communiquer. En fait, ça leur fait des petits bras, des petites antennes, qui leur permet d'aller communiquer avec leurs voisins et aussi avec les petites glies, donc qui sont tout autour. Chaque communication d'un neurone vers un autre neurone, et puis quand on va dans le système nerveux périphérique, c'est-à-dire qu'on va s'occuper aussi de comment le neurone va pouvoir commander le muscle, et ben cette fois-ci ça va être de neurone à muscle, il va y avoir donc ces jonctions qu'on appelle synapses. Entre neurones, on va s'arrêter à dire synapses. Quand on va parler entre neurones et muscles, on va plutôt dire jonction neuromusculaire.
Les communications entre neurones ou entre neurones et muscles, ce serait donc du pareil au même ? Mais quelles informations passent dans ces communications ?
Ça fonctionne globalement pareil. Le rôle d'un neurone, c'est de faire fonctionner notre cerveau, si je peux m'exprimer comme ça, avec chaque neurone qui va avoir un peu sa spécificité. Certains vont un peu faire passer le message, vont être un peu les feux verts, et d'autres vont au contraire l'inhiber. Et là, ça va plutôt être le feu rouge qui va dire « bon, stop, on calme le jeu, on ne fait plus passer l'information ». Donc cette information qui passe d'un neurone à un autre neurone à travers ces synapses grâce à des molécules qu'on appelle neurotransmetteurs et qui peuvent être modulées par d'autres molécules qui sont globalement du même type et qui sont aussi fournies au niveau des synapses qu'on appelle neuromédiateurs ou neuromodulateurs qui vont pouvoir un peu moduler ce signal feu rouge ou feu vert. Donc c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas juste l'information passe ou ne passe pas. Cette information, elle peut être atténuée ou changée en termes de temps, ce qui peut avoir une grosse importance dans la transmission des informations d'un neurone à l'autre ou d'une zone de cerveau à l'autre.
Avec un tel réseau neuronal, l'encodage ou le rappel d'informations semble infaillible. Mais malgré tout, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, notre système neuronal peut commencer à s'emballer et ne répond plus très bien. C'est par exemple le cas dans une situation de stress. Certaines synapses, les connexions entre les neurones, vont être un peu plus défavorisées que d'autres. Elles seront moins utilisées. À terme, ces synapses qui ne sont plus du tout utilisées vont finir par être éliminées par notre cerveau. Et il en est de même pour nos neurones.
Ça, c'est un phénomène tout à fait normal, tout à fait physiologique, qui se passe pour tout le monde, dans n'importe quelle situation. Qu'on soit en train d'apprendre quelque chose, même au cours des cycles jour-nuit. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive dans notre quotidien, dans notre vie normale. Là où ça ne va pas, c'est que ce tri des synapses va pas forcément être le bon quand on est atteint d'une maladie. C'est plus la bonne gestion, la bonne reconnaissance de quelles sont les synapses qu'il faudrait garder et quelles sont celles qu'il faudrait éliminer. Si les neurones qui sont particulièrement importants dans l'hippocampe, on a dit, pour créer des nouveaux souvenirs, se mettent à ne plus fonctionner ou n'ont plus tous les composés qu'ils devraient recevoir pour créer des nouveaux souvenirs, eh bien, on ne va pas former autant de nouveaux souvenirs ou on va avoir d'autres conséquences comme se mettre un peu en retrait pour éviter de se retrouver dans une situation où on va devoir faire appel à notre mémoire si on ne sait plus comment répondre, ce genre de choses-là.
Je comprends mieux maintenant. Mais alors que se passe-t-il concrètement dans le cerveau de mes amis malades ? Est-ce que ce sont les nouveaux souvenirs qui ne se forment plus? Ou ne sont-ils plus capables de faire appel à leur mémoire? Parfois, par exemple, impossible de me rappeler d'un simple code, comme celui d'un interphone ou de l'emplacement de ma voiture dans le parking. Est-ce que notre cerveau est capable de stocker provisoirement des informations?
Typiquement, c'est quand on nous demande d'apprendre un numéro de téléphone, parce qu'on va s'en servir 2 minutes après. Mais c'est quand même une fonction dont on se sert au quotidien, de pouvoir engrammer une information, la maintenir en mémoire quelques minutes, quelques secondes parfois, et la laisser couler après, parce que finalement, l'utilité est déjà passée. Heureusement, notre cerveau est capable de ne pas tout stocker, parce que sinon, ce serait intolérable.
Et pour les informations qu'on cherche à retenir?
Oui, alors donc du coup ça va faire appel à différentes zones du cerveau éventuellement, et puis plus on va répéter quelque chose, mieux on va consolider. En fait, on va avoir plusieurs phases de consolidation, ce qui d'ailleurs laisse une fenêtre assez intéressante où on a un moment où notre mémoire est dans une forme, on va dire, un peu labile, où elle peut être modifiée, elle peut y compris être presque effacée. Parce que, à force de remodifier ce souvenir, on peut le transformer un peu. C'est ce qui se passe dans l'apprentissage sémantique, c'est-à-dire qu'à force de répéter, on garde l'information principale et vraiment elle devient un élément absolument évident pour la personne. Mais si on reste à un stade plus épisodique et qu'on fait revivre juste quelque chose qui était vraiment très anecdotique avec un contexte particulier et qu'on se replonge vraiment là-dedans, finalement, on peut retourner dans un stade où on peut un peu reconstruire un peu ce souvenir. Alors évidemment, en ajoutant les événements du nouvel épisode, éventuellement, ça peut être important, intéressant aussi en termes de thérapie.
La mémoire qui déraille.
Quand j'ai été diagnostiquée en dépression, mon psychiatre a mis le doigt sur des problèmes que je pensais même pas avoir. Au départ, je suis allée consulter pour un sentiment de tristesse, un mal-être, vraiment ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Mais la dépression, au final, c'est pas que ça. Au fil des discussions, des questions, je me suis rendu compte que j'avais aussi des soucis de mémoire. Mon psychiatre me posait des questions assez anodines sur ce que j'avais fait la veille, ce que j'avais mangé, et en fait mes réponses étaient hyper floues. C'était assez en accord avec ce que je ressentais, parce qu'au final tous les jours se ressemblaient et n'avaient plus trop de saveur, et je me souvenais même pas des petits éléments qui pouvaient différencier mes jours les uns des autres. Et en fait, quand j'ai pris conscience de mes soucis de mémoire, à cause de la dépression, je me suis rendu compte de plus petits oublis également. Des noms de chansons, des films, parfois même des mots très courants.
Des petits oublis, à cause d'une dépression, une maladie qui peut affecter toutes et tous, à tout âge. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie, une maladie courante, avec des symptômes complexes et variés, qu'il ne faut pas cacher, qui touche notre humeur, cerveau bien sûr, mais aussi nos capacités mémorielles, et ce n'est pas la seule.
Quand on a une maladie qui touche la mémoire, et ça concerne donc beaucoup des maladies psychiatriques, eh bien on va perdre certaines capacités à faire appel à cette mémoire. C'est-à-dire que la mémoire en elle-même n'est pas forcément plus capable de créer des nouveaux souvenirs. C'est pas que notre cerveau ne peut plus faire ça. Parfois oui, mais pas toujours. Quand ça n'est pas le cas, quand on est encore capable de créer des nouveaux souvenirs, ça veut pas dire qu'on est capable de faire appel à nos souvenirs. Donc il y a différentes catégories, différents niveaux de gravité. Donc voilà, il va y avoir des différents stades, on va pouvoir différencier en fonction de l'avancée de la pathologie en quelque sorte.
Une maladie psychiatrique, mais qui peut modifier le fonctionnement et même la morphologie de notre cerveau. Mais c'est dans ta tête ce qui t'arrive. Oui, c'est sûr, c'est dans ma tête. Mais c'est bien réel. Catherine Belzong, professeure de neurosciences et directrice de l'unité INSERM Imagerie et Cerveau, m'explique l'impact de ces maladies.
Effectivement, dans la dépression, on peut regarder le cerveau de la personne, on va voir qu'il y a dans le cerveau des modifications à la fois morphologiques et fonctionnelles. C'est-à-dire morphologiques, on peut faire une IRM, on va voir que certaines régions du cerveau voient leur volume augmenter ou diminuer. Par exemple, les régions préfrontales, c'est des régions qui sont sous le front, qui sont très importantes, notamment pour réguler les émotions, sont diminuées dans leur volume. Et puis, une autre région qui s'appelle l'hippocampe, qui est logée dans les lobes temporaux, est également une région dont le volume est réduit. Ça, c'est une région qui est très importante dans tout ce qui est mémoire, mémoire des épisodes de notre vie.
Quel est le lien avec la façon dont on se souvient de ces épisodes de notre vie? Comment savoir si on est dépressif?
Si on fait un test en vous disant marquez les 10 premiers souvenirs qui vous arrivent du dernier mois, vous allez avoir une liste dans laquelle il y aura du plaisant, du déplaisant. Si on fait faire la même tâche à une personne dépressive, elle va se rappeler presque que de choses négatives. Son vécu mental étant composé surtout de choses pas très plaisantes, ça va alimenter son état dépressif.
Aude Marzo m'avait expliqué que les neurones et les liens entre eux étaient essentiels au fonctionnement de notre cerveau et de notre mémoire. Est-ce que certaines maladies mentales peuvent toucher le fonctionnement des neurones, voire leur nombre?
Alors, dans l'hippocampe, c'est effectivement une région du cerveau dans laquelle naissent tous les jours, chez l'adulte, des nouveaux neurones. Longtemps, on a cru que chez le sujet adulte, c'était fini, en fait, que les nouveaux neurones, on n'en avait que pendant la phase développementale, mais pas à l'âge adulte. On sait, même ça a été contesté ces dernières années, mais c'est quand même assez bien établi maintenant chez l'homme, que tous les jours, on fabrique à peu près 1400 nouveaux neurones. Chez la personne déprimée, il y a une baisse, effectivement, du nombre de nouveaux neurones. Ça a été constaté dans des études post-mortem, mais également dans des modèles animaux de dépression. Une autre chose qu'on sait également, c'est que les antidépresseurs vont stimuler cette neurogenèse.
Les antidépresseurs, ces fameux médicaments, dont il existe des dizaines de molécules et que les Français consomment beaucoup. Ils sont régulièrement prescrits, pour des dépressions bien sûr, mais aussi des états d'anxiété. Ils stimuleraient donc la production de neurones.
Ils vont même la stimuler au-delà de la normalité. C'est-à-dire, imaginez que, par exemple, chez une personne normale, peut-être que le nombre de nouveaux neurones est divisé par 2 chez un dépressif. Vous prenez des antidépresseurs, ça va les multiplier par 10. Il y a trop presque de nouveaux neurones après antidépresseurs.
Pourquoi vouloir chercher à produire autant de nouveaux neurones?
On peut se demander quelle est la fonction de ces nouveaux neurones. Nous, au laboratoire, nous avons montré il y a une dizaine d'années que ces nouveaux neurones, en fait, contrôlent la sécrétion des hormones du stress. Normalement, quand on est stressé, il y a certaines hormones qui sont sécrétées, comme par exemple le cortisol. Ce cortisol, évidemment, va nous permettre de nous défendre, de mobiliser de l'énergie pour nous défendre contre les agressions du monde extérieur. Mais le problème, quand il y a un excès de ces glucocorticoïdes, de ce cortisol, là, ça a un effet neurotoxique. C'est-à-dire, ça va détruire des neurones dans le cerveau. Donc, du coup, il faut avoir exactement le bon dosage de cortisol dans le cerveau. Il ne faut pas en avoir trop, sinon ça peut détruire des neurones. Si on n'en a pas assez, on n'a pas les ressources pour affronter l'environnement. Donc, ça veut dire que ce cortisol, normalement, est régulé pour qu'il n'y en ait ni trop ni trop peu. Et il est régulé avec une boucle de rétroaction. Les boucles de rétroaction, c'est comme un thermostat qui permet d'augmenter la température si elle est trop faible ou de la baisser quand elle est trop forte. Il y a un système un peu analogue avec le cortisol. Et ce système de régulation, cette boucle de rétroaction, est déficitaire dans la dépression.
Tout s'explique. C'est vrai que le cerveau, c'est un organe complexe et que c'est lui qui envoie des informations à tout notre corps. Il suffit parfois d'un petit dérèglement pour engendrer des conséquences plus ou moins graves. C'est ce que nous expliquait Aude avec le rôle des neurotransmetteurs, neuromédiateurs ou neuromodulateurs qui vont transmettre, réguler les informations. D'ailleurs, j'ai lu dans le dossier d'information de l'INSERM sur la dépression que certains dysfonctionnements de neurotransmetteurs peuvent être impliqués lors d'une dépression. Par exemple, un déséquilibre de la balance des neurotransmetteurs du glutamate, excitateur, et du GABA, inhibiteur, serait à l'origine d'une altération de la neuroplasticité chez le patient déprimé, avec une incapacité par rapport aux personnes non malades à former de nouveaux neurones, notamment au niveau de l'hippocampe. C'est clair, la dépression ne fait pas rêver. Mais alors, comment peut-on faire pour en sortir? Quels sont les traitements? Comment agissent-ils? Mais surtout, est-ce que ça fonctionne? Autant de questions que nous allons continuer de nous poser dans nos carnets d'IG. Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. C'est la fin de cet épisode de Carnet d'IG. le podcast de l'INSERM consacré à la découverte des mécanismes de notre corps. Nous remercions Aude Marzeau et Catherine Belzong pour leur intervention dans cet épisode. Une coproduction de l'INSERM et du Labo des Savoirs que vous pouvez retrouver sur Spotify et SoundCloud. À bientôt.